vraiment bienvenue avec un sujet qui est évidemment particulièrement au cœur des contes, au cœur des légendes, au cœur des mythes et des mythologies. Et on va en parler avec Malika Albaoui et Luc Biget. Alors, Malika est conteuse, une habituée des festivals. Ça fait 2-3 ans qu'elle pratique au moins, parce que à votre âge, on ne peut pas en avoir fait beaucoup plus.
Et voilà. Entendez.
Vous m'avez dit être fascinée par les sagas.
Oui.
Les sagas modernes, les sagas anciennes aussi. Mais aussi, on peut citer quand même un ouvrage que vous avez écrit dans la collection du Seuil, des contes des sages berbères.
Les contes des sages berbères, voilà. Paru il y a, en mars de 2015 déjà.
Et avec Luc Biget également. Alors, Luc Biget qui a un parcours tout à fait surprenant, mais vous me corrigez si je me trompe, parce que vous êtes scientifique, vous êtes biochimiste. Mais par contre, vous avez depuis très très longtemps développé un intérêt très très fort pour le symbolique, pour le monde symbolique.
Pour le symbolisme, l'astrologie et ensuite le symbolisme de la mythologie grecque.
Donc voilà, ce parcours tout à fait surprenant, donc de la science à l'astrologie, mais pas si surprenant que ça. Enfin, vous nous l'expliquerez bien mieux que je ne saurais le faire. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler du héros, mais peut-être qu'avant ça, vous pouvez dire un petit mot sur votre travail, votre façon de travailler, plus généralement, avant de passer à la question du héros, Malika, peut-être.
Oui, moi je suis conteuse depuis 25 ans maintenant, et depuis une dizaine d'années, je suis vraiment fascinée par la mythologie grecque, notamment, et les héros. Je raconte Ulysse, Héraclès, un peu Orphée. Et en fait, c'est parce que ces héros m'inspirent une écriture poétique. Enfin, ils m'inspirent, j'écris des chansons, en fait. C'est comme ça que, à ma manière, j'actualise les motifs des mythes. Et donc, comme je raconte, ben je partage et je pourrais partager avec vous un peu l'écho que les auditeurs et les enfants notamment ont à entendre ces mythes et combien ça les verticalise, combien ça leur fait du bien.
On est déjà presque à la fonction du conte, mais on y reviendra tout à l'heure en essayant de parler de la fonction du héros. Luc Biget, dites-nous en un tout petit peu plus sur votre travail sur le symbolique, parce que vous avez même créé une académie.
Oui, je vais. Elle est un peu en sommeil. On pense à la relancer en ce moment. L'Université du symbole, qui est une formation donc, sur les langages symboliques, qui a lieu à Paris. Je prends le relais de ce que dit Malika, c'est-à-dire, effectivement, les mythes sont vivants. C'est-à-dire, les mythes, ce n'est pas seulement des grandes histoires dont on ne connaît pas l'origine, d'ailleurs, hein, dont certains peuvent remonter au néolithique, mais ils sont dans un espace d'éternité ou d'intemporalité, en tout cas. C'est-à-dire, on peut aussi se reconnecter à des grands mythes aujourd'hui dans nos propres vies. Donc, ce qui m'intéresse par rapport à l'approche scientifique, c'est que la science fait une division entre l'observateur et ce qui est observé. Alors que les symboles, au fond, symbolène, hein, veut dire réunir, les symboles permettent cette réunion entre entre la conscience de la personne et le monde des archétypes, le monde du sens, le monde de l'expérience quotidienne. Donc ce qui m'intéresse dans cette lecture symbolique, c'est que ça complémente en réalité l'approche scientifique, qui est objectivante, alors que dans le monde symbolique, le monde des mythes et aussi bien sûr l'astrologie, ça permet de se reconnecter à son mythe fondateur. C'est-à-dire donc du coup de retrouver cette intensité de vie, cette intensité de joie qui nous habite et qui nous fonde. Donc c'est pour ça que j'explore ce monde du sens, en parallèle évidemment aux données scientifiques, puisqu'on peut les lire d'une manière symbolique, bien sûr.
Alors, vous parlez de mythe fondateur, on pourrait reprendre beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire évidemment, mais ça me permet de faire une transition vers déjà le héros. Malika en citait tout à l'heure, notamment Ulysse et Héraclès, pas les moindres des héros, bien sûr.
Ceux qu'on a beaucoup chantés.
Oui, absolument, oui. Depuis longtemps. De votre point de vue, le héros symbolique, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose d'universel? Est-ce que c'est quelque chose de très partagé? Est-ce que c'est le héros, d'abord, qui peut justement nous faire accéder à ce que vous appeliez notre mythe personnel ou...
Il y a beaucoup de questions dans une seule question.
J'arrête alors.
le héros, oui, c'est quelque chose d'assez universel qu'on retrouve dans toutes les mythologies. Après, on peut discuter sur l'origine des mythes. Il y a certaines thèses, notamment un enseignant à Harvard, dont la thèse est de dire qu'il y a une origine unique à l'ensemble des mythes de l'humanité. Donc, ou alors, l'autre hypothèse, c'est de dire, au fond, ce sont des archétypes, ce sont des universaux, et donc, bien sûr, on va aussi les retrouver dans toutes les cultures. Mais la fonction du héros, en général, c'est techniquement, c'est un enfant qui va naître des amours d'un dieu mâle et d'une femme. Donc, au fond, il porte en lui la dimension humaine, hein, du fait du féminin, et la dimension céleste du fait du dieu. Donc, c'est quelqu'un qui, comme chacun d'entre nous, en réalité, portons dans notre cœur, dans notre âme, une dimension liée à l'organisation de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, de notre terrestrialité, et en même temps une aspiration vers un ciel. Donc le héros, c'est celui qui va écouter l'aspiration vers son ciel, passer par différents chemins, différentes épreuves, et in fine, remonter dans l'Olympe, remonter dans le monde des dieux.
Malika, c'est ça qui. C'est à cette dimension-là que vous faisiez référence quand vous parliez de verticalité. C'est l'effet que vous recherchez lorsque, dans les contes, dans ce que vous racontez, vous utilisez le héros, la figure du héros.
Moi, je vais parler en tant qu'artiste. Par exemple, hier, on a vu le film de Jodorowsky. C'est une expérience, en fait. Quand on est là, on vit pendant une heure et demie. C'est une expérience. Et ensuite, ça nous laisse, pour chacun, selon son ouverture, selon son propre questionnement, sa propre maturité, ça laisse comme des itinéraires, des questions. Le mythe, il y a le contenu, c'est-à-dire on va raconter, c'est une épopée, c'est une. Mais après, c'est l'expérience de chacun.
C'est-à-dire que chacun se réapproprie la narration, l'histoire racontée, et fait que cette histoire rencontre la sienne propre, quelque chose comme ça ?
C'est comme le monde et la vie, quoi. Il y a l'épopée, c'est le mythe fondateur, et il y a une grande puissance d'identification, c'est-à-dire c'est en même temps extérieur et en même temps intérieur. Je sais pas comment. Et l'expérience, moi, quand je raconte, je vois que ça fédère parce que c'est quelque chose qui construit. C'est une histoire qu'on écoute, par exemple l'histoire d'Ulysse, on l'écoute avec beaucoup d'attention, on veut savoir où il va aller, est-ce qu'il va retrouver. C'est un itinéraire qui est son itinéraire à lui et ça fait miroir en fait, ça pose des questions très, très intimes.
Oui, c'est un héros, sert à s'identifier en quelque sorte, heureux qui comme Ulysse a fait un grand voyage ou de grands voyages, je ne sais plus. En même temps, il n'était pas très heureux dans ses voyages, donc c'est aussi de l'ordre de l'épreuve, non ? C'est quelque chose comme ça ? Est-ce que ça rejoint nos épreuves intérieures ?
Oui,
est-ce que ça peut nous aider à les franchir, par exemple ?
Ça donne des itinéraires comme une cartographie, ça donne des éléments. En tout cas, quand on écoute, c'est pour ça que bon, moi je voulais pas tellement parler, je voulais tout à l'heure moi réciter comme Pindar qui disait un exploit doit être chanté. Moi c'est plutôt comment rendre à travers la force poétique cette expérience qui est en même temps une expérience de l'instant, puisqu'on est réunis ensemble, et puis une expérience qui vient de très très loin. Voilà, et la poésie, c'est ça. Et moi, le mythe, je rentre dans le mythe, parce que c'est des chants, par exemple, Homère, c'est des chants. Et donc, on entend des chants. Les chants, c'est pas, on peut pas vraiment. C'est des chants, on fait une expérience, et ensuite. Eh bien, selon chacun, il va y avoir des questions, des itinéraires. Luc Ferry, par exemple, il présente la mythologie, le héros. Il dit, voilà, c'est comment on part du chaos pour arriver à l'harmonie. Comment se mettre le mythe présente le miroir de comment du chaos on est arrivé à l'harmonie. Et donc, le héros, c'est celui qui va symboliser ce cheminement vers l'harmonisation.
Alors, Luc Biget, je me retourne vers vous à nouveau. Donc, Malika disait beaucoup de choses sur la fonction du conte, sur la fonction du héros, sur l'identification. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Est-ce que le héros, effectivement, dans l'univers symbolique, parce que pour vous, le symbolique est forcément une dimension active ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, tout dépend ce qu'on entend par activité. Pour moi, le symbolique, c'est quelque chose qui fait résonance et donc qui va effectivement transformer notre état de conscience. Une fois, on faisait un séminaire à l'Université du Symbole sur le mythe de Prométhée. Il y a une personne qui est venue et qui connaissait rien à Prométhée. Je lui demande pourquoi vous êtes venue. Elle me dit, c'est le mot qui m'a fait venir, c'est le nom qui m'a fait venir, mais je ne connais pas l'histoire. Et après, on a vérifié, effectivement, elle avait bien un mythe de Prométhée dans son thème astrologique et dans sa vie. Donc il y a une espèce de résonance qui se produit. Et c'est cette résonance qui va élargir notre perception, notre champ de conscience et éventuellement nous mettre en mouvement. Mais c'est aussi des mouvements intérieurs que va proposer le mythe. Donc la fonction du héros, le schéma général du parcours héroïque, c'est quelqu'un qui quitte sa famille, qui quitte les siens, qui quitte sa nation, parce qu'il a une conscience aiguë du manque. Parce qu'il y a au fond de lui un appel et quelque chose qui lui dit « Le monde pourrait être un peu mieux ou différent de ce qu'il est. » Il y a quelque chose qui cloche dans ce monde-là. On l'a tous, en réalité, cet appel-là, à un moment ou à un autre. Mais le héros, c'est celui qui va écouter l'appel de son cœur, l'appel de cette conscience du manque. Et c'est parce qu'il a la conscience du manque qu'il va se mettre en route. Il va traverser un certain nombre d'épreuves. On a bien sûr les 12 travaux d'Hercule, mais tous les héros passent à travers des épreuves. Ils sont souvent positionnés dans une géographie de l'imaginaire, près des grottes, près des fleuves, près des ponts, etc. C'est-à-dire des lieux de passage. Parce que le héros lui-même est un être de passage. C'est-à-dire qu'il va permettre un passage. Et puis, au bout d'un moment, une des grandes épreuves, bien sûr, ça va être la descente aux enfers, la descente dans le monde souterrain. Le mot « enfer » est, en fait, très inapproprié. À ce moment-là, à un moment, il va trouver son Graal. C'est-à-dire qu'il va changer d'état de conscience, en réalité. Avoir une forme de révélation, trouver la princesse qu'il a vue en rêve, naguère, etc. Retrouver dans les contes le voleur qui a pris la poule aux œufs d'or, etc., qui pondait des œufs d'or, etc. Et parce qu'il a changé son état de conscience, il va pouvoir revenir dans son ancien monde. Et à ce moment-là, il va apporter et redonner une nouvelle fécondité à son ancien monde. Il sera sacré roi, etc. Peu importe les images, mais c'est des rois, c'est-à-dire changement, nouvel état de conscience. Le roi, c'est le soleil, c'est la conscience. Donc le parcours du héros, c'est vraiment comment, à travers des transformations intérieures, je change mon état, je quitte les miens parce que j'ai conscience du manque. J'écoute le murmure au fond de mon cœur qui dit « le monde pourrait être autrement que ce qu'il est aujourd'hui ». Je traverse un certain nombre d'épreuves, je vais dans un pays inconnu, dans un monde étranger. J'ai soudain une espèce d'insight, de révélation, de prise de conscience profonde. Et je retourne dans mon ancien royaume. Et ça, c'est une partie délicate et difficile. Parce que souvent, le vieux monde ne veut pas entendre les données du nouveau monde qui sont vécues dans la profondeur de l'intimité. Et après, l'ancien roi devient le nouveau roi. C'est-à-dire, au fond, il acquiert une nouvelle légitimité. Donc c'est ça le parcours du héros, c'est-à-dire comment je me transforme suivant les voies propres à chacun pour apporter une nouvelle fécondité au monde que j'ai quitté naguère.
Il y a quelque chose de messianique dans la manière dont vous le dites. Est-ce que ça peut entretenir des rapports justement avec nos propres constructions culturelles beaucoup plus proches comme celle-là ?
Ceci dit, les Grecs n'étaient pas messianiques, mais peut-être sûr. Je le dis sous une déformation occidentale, c'est possible.
Est-ce que tout ça peut avoir des rapports aussi avec les héros du quotidien, c'est-à-dire les gens qui, cette fois, peuvent avoir l'occasion de se montrer en héros, d'avoir des actes héroïques, ou aussi avec quelque chose qui est très présent aujourd'hui, je crois, surtout depuis quelques années, notamment avec le cinéma, les super-héros qui nous reviennent des États-Unis. Est-ce que tout ça peut avoir des liens ?
Tout ça a des liens, oui. En tout cas, le fait que le monde médiatique, bande dessinée, etc., mette en scène des super-héros, c'est quelque part le signe symbolique qu'on a besoin que des super-héros se réveillent dans notre communauté. Parce qu'au fond, d'une certaine manière, on ne peut pas généraliser, mais d'une certaine manière, l'art est prophétique. C'est-à-dire, il va annoncer, en réalité, ce que l'inconscient collectif a besoin à un moment donné de son histoire. Et une fois que c'est réalisé dans la communauté, évidemment, cette dimension va disparaître puisqu'elle est concrétisée dans le réel. Chaque culture a son type de héros. On peut, au fond, poser l'hypothèse qu'il y a des universaux, des archétypes au sens jungien, mais que ces universaux sont métabolisés, c'est-à-dire représentés d'une certaine manière par une culture donnée. L'Inde ne va pas représenter les mêmes types de héros que la Grèce ou que le monde nordique, par exemple, ou le monde celte. Et qu'ensuite, il y a un autre niveau d'intégration qui est l'intégration personnelle, c'est-à-dire on va intégrer la vie du héros à travers nos propres images personnelles dans la vie quotidienne. Donc on a une espèce de filiation entre l'universel, le collectif et le personnel, mais sur un même fil de sens. sur une même structure générale qui est comment la conscience se renouvelle, par exemple.
Alors Malika, la conteuse voulait s'exprimer en conteuse.
Et avant, je voulais peut-être pour rebondir un peu sur les héros, notamment là, au cinéma. Boris Cyrulnik a écrit un très beau livre, son dernier, c'est « Ivre paradis, bonheur héroïque ». Et combien la sublimation, en fait, permet avoir des héros à l'intérieur de soi, ça nous permet des fois de tenir. Alors il dit « pas d'existence sans épreuve, pas d'affection sans abandon, pas de lien sans déchirure, pas de société sans solitude. La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive. Le besoin du vite, comme un élan vital, le besoin d'avoir des héros. La sublimation poétique, elle permet aussi de construire des héros. Et je voulais, par exemple, pour me replacer dans ma position de conteuse, dire par exemple, j'ai travaillé sur la mythologie berbère. Les gens, moi je vois que la tristesse gagne les cœurs quand on n'a plus cet élan de projection. Et le héros, quand on réveille le héros, et c'est peut-être une des fonctions du conteur, hein, peut-être une, je ne sais pas, mais en tout cas, de raviver certains archétypes, c'est certain. Et le héros, c'est celui qui nous catalyse le plus. Alors voilà, par exemple, j'ai trouvé dans une thèse 3 lignes sur comment un instrument de musique qui s'appelle l'imzad, pourquoi il a été inventé. Et là, il met en scène, c'est les femmes qui ont inventé cet instrument de musique. Donc le héros, c'est pas un nom, c'est vraiment un groupe. Je lis ce que j'en ai fait, moi en tant que conteuse de 2017. Depuis combien de temps était-il en duel, ces deux guerriers tamashèques l'épée à la main? De nuit comme de jour en lutte perpétuelle, l'entrechoc de leurs armes se répandant au loin. Leurs cris retentissants éloignent la gazelle. Les dunes tremblent sous l'éclat de leur voix. Les oiseaux pour nicher montent haut vers le ciel. Et la poussière du sable fuit au bruit de leurs pas. Ils se battent pour un puits convoité de longue date. La source du conflit jamais ne se tarit. Leurs lèvres sont écumantes et leurs fronts moites. Ils se nourrissent seulement de l'ardeur du défi. Non loin de l'ère de cette longue bataille, des femmes plus belles qu'une troupe de fans. Des bijoux cliquetants sont pendus à leur taille, leur peau noire et bleutée, leur sourire rayonnant. Elles mâchent des mots dans la grande nuit troublée. Elles espèrent un temps pour la fête et la danse. Elles murmurent, elles contemplent le ciel étoilé. Comment taire cette querelle savruyante? Décadence. Les femmes sont debout, les femmes sont debout, une ode sur les lèvres, au bord d'une calebasse vide, au ventre rond, elles cousent la peau tannée d'une vieille chèvre, deux bâtons, une seule corde, et voilà leur violon. Un archer courbé et leur imzad déploie le geste féminin qui éconduit la haine. Une seule corde, mais 1000 notes rougeoient le courant de musique qui soulage des peines.
Ouais, c'était très beau.
Merci.
Du coup, c'est compliqué de reprendre après. La
en fait,
ronde,
c'est les femmes. Là, le héros, c'est égal les femmes.
Oui.
Voilà. Et donc, la femme qui va, j'espère, ça réveille quelque chose et ça nous pousse. Moi, le film de Jodorowsky hier, ça m'a donné une pêche monstrueuse. Merci.
Alors, pour reprendre quand même, donc, tout ça, à la fois ce que vous disiez, Luc, et puis Malika, ce que vous citiez juste avant votre conte de Boris Cyrulnik, amène quand même à une question supplémentaire, c'est-à-dire que ce sont des démarches initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, des épreuves, un changement, et on revient là où on était. C'est typique, c'est même prototypique de la démarche initiatique. Et en même temps, dans ce que dit Cyrulnik, il y a aussi une démarche thérapeutique. Alors, est-ce que le conte a aussi, et notamment le héros, qui permet donc cette identification en particulier du lecteur ou de celui qui écoute au personnage central, est-ce que ça peut avoir ce type de fonction là aussi? Est-ce qu'on peut, par exemple, aller mieux avec le conte?
On peut sans doute aller mieux avec le conte. Par contre, est-ce que c'est en soi un processus thérapeutique? C'est une autre question. J'utilise souvent cette formule, le travail mythologique permet un développement impersonnel et non pas un développement personnel. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est parce qu'on s'adresse à plus grand que soi que l'on entre en résonance avec ce qui en soi est plus grand que soi. C'est ça la fonction du mythe, au fond, ou des grands symboles. C'est-à-dire, c'est de révéler et de réveiller en même temps cette force de vie qui nous habite. Alors, j'ai beaucoup aimé la citation de Boris Cyrulnik parce qu'au fond, il montre la chose suivante. C'est que ce qui est vivant en nous, c'est parce qu'on accepte la conjonction des opposés. Parce qu'on accepte l'harmonisation des contraires. Donc du coup, on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans la bataille, on est dans le paradoxe. Et le paradoxe est l'espace de la créativité et l'espace de l'émergence du vivant en nous. Et c'est ça qu'apporte le mythe. Et le héros est l'exemple même du paradoxe, puisqu'il porte en lui une profonde humanité, et en même temps, il a le souvenir du ciel, le souvenir de son essence céleste. Donc il porte à la fois la banalisation et la sublimation. Et c'est celui qui sait accueillir, au fond, dans son cœur, cette double dimension d'acceptation du banal et de reconnaissance du sublime. Et c'est parce qu'il, c'est ça qui va le mettre en route, en réalité. C'est ça qui va créer, non pas une insatisfaction, mais une puissance vitale qui va qui va lui permettre de traverser des épreuves et de renouveler sa conscience dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est un effet thérapeutique, mais de mon point de vue, c'est pas thérapeutique, parce que c'est bien au-delà de la personne que ça se pose.
Ça peut être un point d'appui, mais ça n'est pas. Parce que je pensais notamment aux techniques qu'a développé quelqu'un comme Devreux, puis ensuite Toby Nathan, qui fonctionne énormément avec ce type de matériaux.
Oui, tout à fait. Ben, ça reconnecte en même temps à l'inconscient collectif de la culture, qui est plus grand que soi, là aussi.
C'est l'harmonisation entre les instances extérieures et puis nous, nos propres questionnements intimes, nos propres... Voilà, s'harmoniser toujours, d'instant en instant, voilà, on voit comment on est interpellé par le monde et puis par le héros. C'est comme si, pour moi, il est à la commissure, toujours sur le fil, entre répondre au monde et puis répondre à soi. Et comment on fait? On est comme des funambules, là. Et on a quelques figures qui peuvent nous aider parce qu'il y a déjà des résolutions. Donc voilà, il y a des résolutions. Est-ce que ça nous concerne ou pas? C'est toujours à interroger. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai découvert Homère quand j'avais 16 ans. J'ai lu l'Iliade et l'Odyssée. Et je l'ai relu. Et même hier, en préparation, je me disais qu'est-ce que je pourrais dire sur le héros. Je pensais à Achille. Toute la journée, je pensais à Achille. Je dis, mais Achille, il voulait une vie courte et mourir dans la gloire. Seulement, quand Ulysse le rejoint au royaume des enfers, quand Ulysse, par Circé lui dit, va dans le royaume des enfers, interroge Tirésias, il va te donner l'itinéraire. Et Ulysse descend, et là, il voit qu'il a un de ses hommes auquel il tient, parce que c'est un des hommes les plus faibles de son équipage, Elpenor, qui est mort, tandis qu'il descendait au royaume des enfers. Et là, il rencontre Tirésias, donc il y a un sacrifice, il rencontre sa mère qui est morte pendant son voyage, et il rencontre Achille qui est mort sur le champ de bataille à Troie. Il lui dit, Achille, qui voulait la gloire, mort jeune, donc il est mort jeune, et puis on va le chanter, on va chanter ses exploits, d'accord. Mais là, quand Ulysse demande de ses nouvelles, il dit « J'aimerais plutôt être vivant sur terre, être un berger sur terre, mais être vivant. » Et tout à coup, il a aussi des préoccupations très, entre guillemets, mondaines, parce qu'il se dit « Mon père, il a des soucis, j'aimerais être aux côtés de mon vieux père et l'aider. » Alors, c'est beau, parce que là, on est sur le fil. Il voulait être un héros, il a ses glamour et tout ça, super, il est mort sur le champ de bataille. C'est parfait, ça nous fait... Et puis, en même temps, ben là, on a une parole qui est... on veut vivre, tous, là, je crois. On veut tous vivre. Et puis, on veut tous s'occuper de nos anciens. Voilà, en tout cas, Achille, là, il voulait s'occuper de son vieux père. Seulement, il était mort dans la gloire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Je voudrais rebondir là-dessus, parce que tu parles de la mort d'Achille. Je voudrais parler de la naissance d'Achille.
Ah.
Parce qu'en fait, Achille, c'est un cas spécifique de la tradition grecque, hein, parce que c'est à l'envers. C'est-à-dire, c'est une déesse qui a fécondé un humain, un homme. La déesse s'appelle Thétis, qui est la copine d'Océanos, donc c'est la déesse de l'océan. Et l'homme s'appelle Pélée, qui veut dire le boueux en grec. Donc c'est comment l'immense s'incarne dans le concret, dans la matière. Et donc, au début, lorsque le petit Achille était encore bébé, était encore enfant, sa mère ne voulait pas qu'il subisse les épreuves et les difficultés de la vie. Donc, vous connaissez l'histoire du talon d'Achille. Elle a enduit son corps d'ambroisie, le liquide dont les dieux se nourrissent en tant que nectar d'immortalité. Et elle le tenait par le pied. Et donc elle l'a enduit, puis après le protocole expérimental voulait qu'il soit rôti dans les flammes pour qu'il monte directement dans l'Olympe, qu'il ne subisse pas les avanies de la vie terrestre. Et à ce moment-là, Pélée est arrivé et il a dit « Écoute, c'est pas possible, tu peux pas brûler mon fils, on le comprend ». Et du coup, Thétis s'est enfui, il a récupéré son bébé, dont le talon n'était pas enduit de la liqueur d'immortalité, d'où le fameux talon d'Achille, bien sûr, qui est son lieu de faiblesse. Et il l'a sauvé, pour le faire en bref. Donc Achille, c'est quelqu'un qui poursuit exactement le chemin inverse d'Hercule. Hercule, il va partir d'une condition terrestre pour finir sa vie dans l'Olympe. Et Achille, il va... partir du désir de sa mère qu'il aille directement dans l'Olympe pour aller à ce que tu disais, c'est-à-dire reconnaître la justesse de la banalité dans le quotidien. Et donc, on a effectivement deux types de héros. On a les héros qui vont à la conquête de la transcendance, à la conquête du ciel, et on a les héros de la vie ordinaire, c'est-à-dire ceux qui s'engagent dans des objectifs, dans des choses du monde, je ne sais pas, qui veulent être s'engager dans quelque chose d'humanitaire ou s'occuper des SDF ou que sais-je encore. C'est-à-dire qu'ils sont dans des actes du concret, de la réalité quotidienne. Donc il y a deux grandes voies héroïques, en fait.
Je vois que l'heure avance et il y a peut-être des questions ou des remarques dans la salle, donc je ne voudrais pas brimer, frustrer... toutes ces expressions-là. Donc, je vais descendre, je vais passer avec le micro. C'est toujours la première question qui est compliquée. Ça, c'est ce que l'animateur dit à chaque fois dans ces occasions. Hein, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose?
Bonjour, c'est une question très simple. Est-ce que vous avez des exemples de héros qui ont eux-mêmes des héros?
J'espère que vous n'avez pas d'autres questions aussi simples. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Et en même temps, je peux me tromper, mais ça me paraît contradictoire à l'esprit héroïque. C'est-à-dire le héros, c'est celui qui part seul. Donc il y a une dimension vraiment d'assumer totalement sa solitude. Et c'est parce que sa solitude, c'est à la fois, évidemment, sa charge, comme la gerbe de blé que doit porter le paysan, mais en même temps, c'est son pain. Parce qu'il accepte totalement la solitude, donc il a cette grâce d'être aidé en permanence par les dieux. C'est-à-dire que les événements de sa vie ou de notre vie nous aident en permanence dans notre quête héroïque, comme par une espèce de synchronicité permanente. Donc je ne crois pas que le héros puisse avoir un modèle, parce qu'il est lui-même unique et il est lui-même son propre modèle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Monique.
Par exemple, moi je suis très touchée, Ulysse, on l'appelle l'homme rusé, parce qu'il est à la commissure toujours, il est avec le monde. Mais il a l'oreille ouverte, il écoute les influences divines. Et c'est pour ça qu'Athéna, elle peut l'aider, parce que s'il n'est pas ouvert, il ne peut rien entendre. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de modèle, mais il y a quand même un bain, là, il y a un bain... Oui, il y a quand même cette ouverture. C'est comme une intuition, un pressentiment d'un accomplissement. Sinon, ben, on ne serait pas en route. Il écoute, par exemple, beaucoup Athéna. Elle l'aide beaucoup. L'intelligence et la guerre, Athéna. Donc, vraiment, la stratégie guerrière, la force de l'intellect donc, et le sentiment. Donc, il est ouvert à ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même cette arrière, ce pressentiment du plus grand que soi.
Oui, c'est-à-dire ils n'ont pas de modèle, mais ils sont aidés par un dieu. C'est-à-dire ils sont en connexion directe avec un fil de sens, en fait. Et c'est souvent Athéna, effectivement.
Moi, ça sera très court, je ne sais pas si ça sera simple. Mais dans quelle mesure est-ce que, si j'ai bien compris, nous sommes tous des héros en puissance ?
Tout le monde n'a pas un mythe du héros. Parce qu'on peut aussi se connecter à d'autres structures mythologiques qui ne sont pas des mythes héroïques. On peut avoir un mythe de Prométhée. Prométhée n'est pas un héros, hein, c'est un titan. On peut avoir un mythe de Narcisse. Narcisse, c'est pas un héros, c'est un jeune homme de 15 ans qui... voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, on peut avoir un mythe d'Icare, etc. Je pense qu'on est tous connectés à un ou plusieurs mythes fondateurs, c'est-à-dire qui nous fondent, qui fondent notre identité profonde. Mais on n'a pas tous la fibre du héros ou l'étoffe du héros. En même temps, celui qui a l'étoffe du héros, c'est celui qui a vraiment senti et écouté l'appel du cœur de son cœur. Après, il y a d'autres. Prométhée, c'est plutôt un intellectuel qui cherche à sauver le monde par la pensée ou par plus de connaissances. Narcisse, c'est plutôt quelqu'un qui, en tournant ce regard vers le lac de sa profondeur intime, dévoile peu à peu le parchemin de sa nature profonde. Donc on a différentes voies pour se connecter au grand mythe, et ce n'est pas toujours le mythe du héros.
Oui, je voudrais juste ajouter à propos du héros que le truc, ce n'est pas d'avoir un héros, c'est de se rendre compte que nous sommes tous des héros, dans la mesure, selon la définition antique du héros, c'est-à-dire né d'un dieu et d'une mortelle, nous sommes tous nés d'un dieu et d'une mortelle, dans la mesure où nous avons tous une dimension mortelle, une dimension quotidienne, humaine et une dimension divine. Nous sommes donc tous des héros.
En ce sens, oui, tout à fait. Tout à fait oui.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Henri Gougaud. Merci. On est tous du fait de cette double nature humaine et divine, des héros, on est des héros. Mais aussi, l'instance, le monde nous appelle à l'oublier. Et peut-être que juste ce qui est héroïque, c'est de laisser la place pour se souvenir de cette chose qui est là, qu'on n'a pas inventée.
J'aimerais bien savoir, dans la mythologie de l'Ouest, par exemple, je pense aux héros, parce que vous disiez que c'est un être de passage. Et c'est vrai que dans le vieux western, dans le western, il y a souvent ce personnage qui vient, qui passe, Shane, l'homme des vallées perdues, par exemple, qui en est vraiment le type même du héros, qui vient, qui va même entamer un combat qui n'est pas le sien, mais qui se sent poussé à le faire et qui disparaît après. Qu'est-ce que vous en pensez
Les questions sont de plus en plus simples. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je dirais le héros, c'est celui qui met en œuvre des actes, mais souvent d'une manière impersonnelle, parce qu'il obéit à la volonté des dieux. Donc au fond, entrer dans un combat qui n'est pas le sien, c'est sans doute répondre à la volonté du collectif ou à la volonté d'un destin ou je ne sais pas quoi. Et souvent, effectivement, soit je parlais tout à l'heure qu'il était sacré roi, mais il peut mourir jeune. C'est-à-dire, une fois que sa tâche est accomplie, il va disparaître. Lui-même est un lieu de passage. C'est-à-dire, il peut faire des actions dans des passages, mais lui-même est un lieu de passage. C'est-à-dire, il laisse passer la force qui le traverse, œuvrer à travers lui pour produire une œuvre ou produire une action. Et après, il ne s'identifie pas à une posture ou à une position. Et après, soit il meurt jeune, soit il est exilé dans le mythe.
Il y a, dans la nouvelle psychologie, dans le développement personnel, tout un mouvement qui tend à dire nous devons être les héros de notre propre vie, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cela, tous les deux ?
Pour reprendre la formule, devenez le héros de votre propre vie, j'ai envie simplement de répondre de la manière suivante. Devenez le héros de la vie. Sinon, on est dans un truc, ça risque un peu de tourner en rond. C'est difficile de faire cette analogie entre ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel et la pensée mythologique, parce que les anciens n'étaient pas dans cette logique de la psychologie du développement personnel. Donc on peut bien sûr ramener les archétypes à ce niveau-là. Mais de mon point de vue, c'est faire l'économie de ce qui est essentiel dans le mythe, c'est-à-dire nous permettre de se connecter à ce qui est plus grand que nous en nous.
Le développement personnel, ça peut être très très utile jusqu'à ce que ça devienne contre-productif, parce que ça, si c'est trop s'il y a trop de volition, on s'éloigne. Donc ça peut aider à restaurer des choses, mais après c'est comme tout, c'est à interroger des moments.
Oui, mais la dimension héroïque, nous sommes doubles, nous sommes divins et nous sommes mortels. C'est-à-dire, nous sommes incarnés dans la matière. Il faut bien qu'on se débrouille avec notre pesanteur, mais nous sommes aussi, nous avons une dimension, disons, divine dans la mesure où nous incarnons aussi, d'une certaine manière, le contraire de la pesanteur qui est la germination. La germination, c'est ce qui pousse vers le haut. Et on a ça en nous aussi. L'intérêt du truc, l'intérêt du fait que le héros, cette définition du héros qui est toute simple, née d'un dieu, d'une mortelle, ça doit, je crois que dans la vie que nous vivons, on peut vivre cette condition-là dans la mesure où c'est le symbole un peu de la marche, c'est-à-dire que on marche sur deux pieds, le pied spirituel, le pied enraciné, là, dans la matière. Et voilà, c'est le principe même de la marche. Quand le côté spirituel est devant, l'autre est derrière. Quand le côté quotidien est impliqué dans la matière et devant, ben, le spirituel est derrière. Ben, ça, voilà, c'est la marche. Assumer sa condition de héros, c'est d'une certaine manière marcher sur ses deux pieds.
Oui, la marche, c'est très joli parce que lorsque vous marchez, qu'est-ce que vous faites ? Vous levez un pied vers le ciel et vous le remettez l'autre vers la terre. C'est effectivement la tension vers l'être lorsque l'on monte et la nécessité de l'avoir lorsqu'on redescend. C'est comme ça qu'on avance, des chutes arrêtées. Chaque marche est une chute arrêtée. Donc c'est vraiment cette tension vers la transcendance qui nous pousse vers le haut et cette nécessité de revenir vers la banalisation dans notre condition humaine. Et au fond, marcher, c'est effectivement entrer dans le processus héroïque. Oui.
Moi, j'ai trouvé ça magnifique, cette histoire de marche d'Henri Gougaud que vous avez reprise. Et finalement, dans le héros, il y a l'histoire du corps aussi. Du corps du héros.
Du corps.
Vous avez commencé sur Achille, la force d'Achille. C'était des beaux gosses, les Grecs, quand même. Et les Troyens aussi, d'ailleurs. Mon fils s'appelle Hector, c'est pour ça que je n'ai pas tellement de tendresse pour Achille. Achille a buté Hector, en fait. Mais revenons à la marche. C'est le corps du héros, quand même, les héros au cinéma, maintenant. Et maintenant, il y a des héros, et c'est intéressant aussi, qui sont des timides et des maigrichons, et qui sont des héros, quand même. Alors, finalement, voilà, quel est le rôle du corps, ce corps dont on ne parle peut-être pas beaucoup et qui est pourtant tellement, tellement important, que vous avez réveillé cette question avec la marche, qui nous rappelle que notre corps, il est quand même bien, bien organisé.
Ce serait l'objet d'une conférence entière, mais simplement, je suis en train de travailler sur une série d'ouvrages qui s'intitule « Le parchemin magnifique » et qui explore le symbolisme du corps humain. Mais on peut observer très simplement que quand on commence par les pieds, on a la voûte plantaire, c'est-à-dire le ciel qui est planté en terre. Et ça se termine par la voûte crânienne, sous laquelle sont les neurones en forme d'étoiles, qui eux-mêmes reposent sur une couche de cellules qu'on appelle les astrocytes, le site des astres, dans la langue des oiseaux. Donc tout ce cheminement héroïque est aussi inscrit dans le corps, en réalité. Et le grand message des pieds, avec la voûte plantaire, ils nous disent très simplement il n'y a pas de chemin puisque le ciel est déjà sur la terre, tu es déjà celui que tu cherches. Mais il faut néanmoins tout un parcours, en tout cas imaginal, non pas imaginaire, mais imaginal, pour monter jusqu'à la voûte crânienne qui est le symbole de l'Olympe. Donc le corps métaphorise en réalité ce processus initiatique qui fait qu'on est un homme debout et on part bien sûr du sol, de notre condition terrestre, pour aller vers la condition céleste qui est la tête qui est ronde comme un ciel.
Et est-ce que vous faites un lien entre le conteur et le héros, ou quel est le lien plutôt entre le conteur et le héros ?
Moi, petite, j'ai vu, quand j'avais 8 ans, j'ai vu au théâtre de Bourges, j'ai vu Le Petit Prince. Et ça a été une expérience formidable. Et des années plus tard, j'ai raconté dans le même théâtre. Et j'ai vu combien j'avais été alpaguée par Le Petit Prince. Et c'est comme ça que je suis devenue conteuse, en fait. Très vite, j'ai dit, ben, moi, j'ai reçu. Je vais essayer de redonner à ma manière. Et donc, le conte, ça s'est imposé. J'ai raconté tout de suite à des petits-enfants. J'ai commencé dans les crèches. Et les contes merveilleux se sont imposés. Donc, il y a un pouvoir d'identification, de projection qui est très, très fort, et de construction, qui est plus de l'ordre, par exemple, pour rebondir aussi sur ce que Noël, par exemple, accepter. Par exemple, j'ai des filles qui sont complexées. Je raconte une histoire où elles vont me parler de leurs complexes. Et quelque part, si le héros accepte ses complexes, ça va être plus... Il y a un itinéraire d'acceptation des complexes. C'est quand même un miroir qui permet je vais dire une banalité, mais qui permet de se voir en grand. Et le conte merveilleux, pour moi, c'est très puissant. C'est très puissant. Et tu peux raconter mille fois la même histoire. Et ben, l'enfant, il va grandir, il va maturer, et il va s'approprier autant... les schèmes psychiques, le vocabulaire, qu'il va rentrer dans une maîtrise de la problématique, il va grandir. Moi, je raconte la mythologie à des enfants qui ont entre 10 et 12 ans, et on voit comment ça les percute. Une salle agitée, une salle avec des enfants vraiment très, très agités, nombreux. Vous leur racontez la mythologie, c'est le plus grand des silences. Et si vous leur racontez des contes merveilleux, il y a des âges, moi, c'est mon expérience. Peut-être un autre conteur pourra témoigner d'autre chose. Mais en tout cas, moi, je sais que la mythologie catalyse vraiment l'attention. Et que ça va très loin. Et le conte merveilleux, j'ai fait l'expérience. Moi, je racontais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Beaucoup dans... Conte merveilleux, entre 5, 6, 7, 8 ans, ça a une force prodigieuse de... C'est comme une dilatation. C'est comme si ces images, elles venaient... comme il y a des choses qui ne sont pas trop encore cristallisées, ça permet vraiment de restaurer. Parce que les enfants, ils sont assez fluides quand ils n'ont pas été trop marqués. Donc, le conte merveilleux, c'est vraiment ta verticalise. Donc, il y a aussi des héros à travers ces héros et à travers l'expérience du conte, de la personne qui raconte et à travers aussi le contenu du conte.
C'est une question qui est très stimulante, en fait, que le conteur par rapport à son héros. Hein, qu'est-ce qu'il est, le conteur, par rapport à son héros ? Et il me vient à l'idée que c'est le curé, c'est-à-dire celui qui sert la messe, celui qui célèbre. Le conteur, c'est celui qui célèbre le héros, c'est-à-dire celui qui sert cette messe joyeuse qu'est le fait de raconter l'histoire. Voilà.
Oui, moi je dirais simplement que c'est quelque chose qui me réénergétise. C'est-à-dire ça, lorsque je me connecte sur un mythe ou sur une grande histoire mythologique, il y a quelque chose qui me nourrit de l'intérieur et le fait de le transmettre, c'est aussi quelque chose qui me nourrit de l'intérieur.
Oui, ce monde aujourd'hui a besoin de héros pour le sortir de l'état dans lequel il est. Est-ce que l'inconscient collectif n'est pas celui aussi qui passe les commandes à celui qui entend ? On voit aujourd'hui avec la nécessité des lanceurs d'alerte, par exemple, sur un certain nombre de phénomènes. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus.
Est-ce que l'inconscient collectif passe les commandes à celui qui entend ? Oui, sans doute. Moi, je dirais, on parle souvent beaucoup de l'inconscient. Tout dépend ce qu'on met dans l'inconscient collectif. Jung ne distinguait pas, même s'il en parlait des deux en même temps, l'inconscient collectif et le surconscient. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de notre être qui est dans le... qui est en contact avec les universaux, et il y a une dimension de notre être qui est en contact avec, avec l'histoire collective, ses guerres, ses souffrances, ses espoirs, etc. Donc on peut effectivement penser que c'est cette dimension du surconscient qui veille, d'où le terme de conte-mère veilleux, qui veille et qui donne des signes, voire des impulsions, effectivement, pour qu'il y ait des transformations profondes dans notre humanité.
Parce que c'était le rôle du cœur.
Exactement.
C'était d'appeler le oui. Le héros. Et aujourd'hui, on appellerait ça l'inconscient collectif, dans nos terminologies.
Alors, le cœur était le siège de l'intelligence, de la volonté, de l'amour, bien sûr. Et nous, on a mis l'intelligence dans la tête. Et si on regarde la morphologie du cœur, la couronne est bien sur le cœur, c'est les coronaires. Elle n'est pas sur la tête. Donc, tant qu'on sera dans cette pensée que la tête a la place de la couronne, c'est-à-dire a la place du pouvoir, au lieu du cœur, effectivement, on perd ce contact avec le monde des archétypes, avec le monde du sens, avec le monde des impulsions courageuses, hein, puisque le courage est en réalité un cœurage. Ça vient de la même racine que cœur, QR, en indo-européen.
Donc on pourrait dire que c'est le cœur collectif qui appelle les héros.
Voilà, exactement. Super. Exactement. C'est le cœur dans cette dimension d'intelligence, dans cette dimension d'ouverture à l'immense et dans cette dimension de concorde, en quête d'harmonie. Tout ça, c'est des grandes qualités du cœur, bien sûr, tout à fait.
Les qualités du héros, c'est des qualités du cœur. Et au début, Malika parlait donc d'Ulysse. Alors, Ulysse le rusé, il est héros pourquoi ? Pour son cœur ou pour son cerveau ?
Je dirais pour son cerveau, chez Ulysse. Mais Ulysse, c'est quelqu'un qui a des difficultés avec le féminin. Vous avez Circé, la magicienne. Les personnages féminins sont des personnages, en général, dangereux. Sauf, évidemment, Pénélope. Donc, Ulysse, c'est un héros qui va développer la pensée. Et la ruse, c'est bien sûr l'embryon de la pensée. Pour sortir de cette identification à un émotionnel, on va dire, patriarcal, qui a peur du féminin, pour penser les symboles. La grande maîtresse des symboles dans l'histoire, c'est quand même Pénélope, qui s'occupe en permanence du tissage, qui est le grand tapis cosmique. Donc, le retour vers Pénélope va signer chez Ulysse le passage, enfin, on peut en tout cas l'interpréter comme ça, le passage d'une pensée qui se défend du féminin vers une pensée qui reconnaît l'intelligence collective donnée par le symbole.
Moi, il y a une scène extraordinaire dans l'Odyssée. C'est quand Ulysse entend, je ne me rappelle plus du nom de Laède, mais Laède raconte la cruauté des Grecs. Et Ulysse pleure, parce qu'on parle de lui, de sa ruse, ils ont tué, ils ont violé, ils n'ont pas eu une belle victoire. C'est pour ça aussi que le retour a été freiné, en fait. Ils ont profané un temple à l'entrée de Troie, donc ils ont été punis. Mais Ulysse, pour moi, il est aussi, il est rusé, voilà. Parce que je me suis posé aussi, parce que ça revient au moins 30 fois, le rusé. Le rusé, pourquoi ? Parce que c'est aussi le signe de l'intelligence. Il a un équipage à mener. On connaît combien c'est compliqué de s'harmoniser entre nous. Et lui, il comprend les processus un peu. Il est quand même, il écoute Athéna. Il sait comment mener ses hommes. En ça, il doit faire preuve de ruse, parce que s'il disait, il sait que ses hommes sont pas prêts à entendre certaines choses. Donc c'est une ruse. Tout dépend de l'intention. Si c'est une ruse pour l'intention chez lui, elle est quand même très claire. Il veut ramener son équipage vivant. Il veut retrouver la mère Pénélope, le retour aux sources et à sa patrie. Donc c'est une intention qui est très claire, qui est assez pure. Mais ensuite, les moyens, ben, bien sûr, il doit être rusé parce qu'il y a des dangers. Et puis, il doit être rusé aussi il va finir par comprendre qu'il y a son orgueil, son immense hybride là. Il a crevé l'œil de Polyphème, il a provoqué son père, Poséidon. Et ben c'est Poséidon qui va lui dire ah, tu crois que tu vas retourner comme ça tranquillement chez toi? Tu vas mettre 10 ans pour retourner chez toi. Donc il est rusé, tout. Il a du cœur, Ulysse. Pour moi, quand je lis Ulysse, c'est un héros qui me fait vraiment. Je trouve qu'il est dans le sentiment. Il n'est pas que dans.
Je suis d'accord avec toi.
C'est pas. Mais rusé, ça dépend en fait. Rusé, c'est à double. Tout dépend de l'intention qu'il y a derrière la ruse. Si c'est la ruse, il y a des ruses. Si c'est pour juste écraser l'autre, oui, la ruse, là, c'est la ruse. Mais il y a une ruse qui est une forme de sublime intelligence. C'est pour servir une intention qui est d'une grande noblesse, mais si on l'énonçait, on ne serait pas compris. Donc, on est obligé de ruser. Ulysse, on dit aussi qu'il est prudent. Ça revient. Ulysse, le prudent.
Ulysse le prudent, ça me fait penser à la phrase d'Audiard, les cons, ça ose tout.
La prudence est une des grandes qualités du héros. Hein. C'est-à-dire cette capacité de prendre le risque tout en sachant que effectivement la quête est importante, donc de ne pas se mettre en situation d'échec du fait de risques inconsidérés.
Alors merci Malika Albaoui, merci Luc Biget pour vos interventions, pour cette table ronde. Merci mesdames et messieurs d'y avoir assisté et participé. Très bon festival.
Merci.